France Info.
Les informés qui vont plancher sur les questions du jour de leur cahier de vacances. Celle-ci, par exemple, jusqu'où peut-on aller pour assurer la tranquillité? Celle des Champs-Élysées, par exemple, au lendemain d'un 14 juillet, agité de jour comme de nuit. Ou encore, comment se faire entendre quand on a un message politique? Vous le savez, Laurence Saillé, porte-parole des Républicains, a décidé de lâcher son poste pour entrer dans l'équipe de Cyril Hanouna. Et autre question, pourquoi n'y a-t-il aucun recensement fiable des accidents du travail en France et le monde qui s'interroge à la une de son édition d'aujourd'hui. Pour alimenter le débat, je vous présente nos informés de la soirée. Bonsoir Saverio Rogec.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, présentatrice à Public Sénat. Sarah Durieux, bonsoir à vous également.
Bonsoir.
Vous êtes directrice exécutive de Change.org France. Stéphane Vernet également avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Et Antoine Colonna, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Vous avez le programme, vous avez les acteurs. Une heure de débat, c'est parti. Et on commence avec la déclaration de ce début de soirée. On le sait, Emmanuel Macron ne s'était pas prononcé depuis près d'une semaine que l'affaire de Rugy a commencé. Il l'a fait ce soir en Serbie. On écoute le chef de l'État.
J'ai demandé au Premier ministre, justement, d'apporter toute la clarté. Et moi, je ne prends pas de décision sur la base de révélations, mais de faits. Il y a encore dans notre pays le respect de la personne individuelle, des droits de la défense et de la possibilité de répondre. Sinon, ça devient la République de la délation. Il suffit que je sorte une photographie, je dise deux choses sur vous, sur n'importe qui, et ça devient les dix petits nègres. Bon. Donc, soyons clairs, je souhaite que chacun puisse être respecté, je souhaite que les principes que j'ai posés soient respectés, et j'ai demandé au Premier ministre de procéder en ce sens. Et donc, des propositions me seront faites, instruites par les faits.
Voilà, la déclaration d'Emmanuel Macron tout à l'heure, il y a des mots qui sont intéressants, ça va y arroger, quand il dit République de la délation, par exemple.
Alors, République de la délation, justement, moi, ça m'évoque précisément les propos du même Emmanuel Macron, il y a tout juste un an, au moment de la révélation de l'affaire Benalla, il s'était exprimé devant les parlementaires de la majorité, on s'en souvient.
À la maison de la chimie, à Paris.
Exactement, c'était filmé, et il avait eu ces mots, il avait parlé d'une presse qui ne fait plus son travail, qui ne cherche plus la vérité. Donc moi, j'y vois déjà un écho dans ces propos-là, quand il parle de République de la délation. Au-delà de ça, j'allais dire, mais on le sent depuis le début de l'affaire de Rugy, on sent la majorité quand même assez gênée, assez prudente dans ses réactions et dans ses commentaires sur cette affaire. Benjamin Griveaux, il est même allé jusqu'à dire que ça donnait, oui, une image terrible de la politique. Ce que nous dit, ou si ce que je crois comprendre de l'entourage du président d'Emmanuel Macron, c'est aussi que le président, visiblement, ne veut pas donner de victoire, pour parler de cette façon-là, à Mediapart. Donc, de ne pas couper une tête pour Mediapart, à Mediapart.
Et en réagissant dans l'instant,
voilà.
en même temps,
juste pour terminer, l'orgueil plutôt que les faits, puisque visiblement les faits, ou en tout cas une partie des faits, sont avérés. Et puis pour terminer, je pense aussi que faut se rappeler qu'Emmanuel Macron, il avait été épinglé, ou en tout cas on en avait beaucoup parlé à l'époque. Il n'était pas encore président, il était ministre de l'économie. Il avait lui-même organisé plus. Il avait usé, abusé de ses dîners. Voilà.
Les dîners à Bercy, effectivement. Stéphane Vernet, même lecture, et accessoirement, on n'entend pas non plus un soutien assez appuyé d'Emmanuel Macron à François de Rugy dans cette déclaration.
Non, on est dans le en même temps. C'est-à-dire, il n'y a pas de soutien, effectivement. Et effectivement, les images qui ont été montrées sont particulièrement choquantes. Elles donnent une image. Très compliqué, elle jette l'opprobre sur l'ensemble de la classe politique. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas sûr qu'une fois qu'on aura tout épluché, on trouvera des choses juridiques de l'ordre du droit à reprocher à François de Rugy.
Mais c'est là où il y a les deux questions. Il y a le droit et la morale, il y a le légal et le moral. Mais on est là-dessus depuis quasiment le début de cette histoire.
C'est pour ça que je vous parle en même temps. Et c'est ce qu'est en train de nous dire le président de la République. C'est-à-dire, je pense qu'il a raison de dire aussi que en fait on ne peut pas instruire à charge, condamner, juger et condamner en 20 secondes sur la base d'une photo. C'est ce que font les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ce que produisent des réseaux sociaux aujourd'hui. La réalité, c'est est-ce que il faut aussi se poser la question de savoir, au-delà des questions de morale, de vertu qui sont importantes et qui méritent discussion, il faut aussi se poser la question du droit. De quoi François de Rugy est-il réellement coupable au regard du droit aujourd'hui? La réponse, c'est jusqu'à preuve du contraire, rien. Donc il y a deux, non pas enquête, mais il y a deux opérations qui sont diligentées. ils vont éplucher ses comptes en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, et ça c'est le secrétaire général de l'Assemblée nationale, la présidence de l'Assemblée nationale qui fait ça. Et il va y avoir une inspection de son logement de fonction au niveau ministériel.
Mais ça a commencé d'ailleurs.
Je ne veux pas être long, mais sur les logements de fonction et les travaux qui sont faits dans les ministères, à l'Assemblée et au Sénat, il y a un vrai problème. Mais c'est pas forcément un problème qui est du côté de François de Rugy. Les dépenses qui sont faites dans la rénovation de cet appartement, elles sont choquantes pour vous, pour moi.
63 000 euros.
Parce que c'est très élevé. Mais est-ce que c'est de la faute du ministre ou est-ce que c'est la conséquence des pratiques des entrepreneurs parisiens qui gonflent tout leur devis, surtout quand ils savent que derrière, c'est pour les palais de la République, c'est la fonction publique. Il y a des pratiques qui posent problème et qui sont généralisées. Et vous avez des entrepreneurs qui se disent « Ah ben, c'est pour tel ministère, c'est l'État, ils ont du pognon, eh ben on y va. » Et
donc Il y avait déjà beaucoup de choses à vérifier, il va falloir vérifier les devis.
Vous devez choisir entre trois devis, mais s'ils sont tous 30 ou 40% de plus qu'on n'aura pas de prix réel.
Moi, je trouve qu'il est très difficile de dédouaner de tels comportements, même s'ils sont peut-être pas répréhensibles au vu de la loi. C'est un des plus hauts personnages de l'État, il est aujourd'hui ministre d'État. Moralement, c'est difficile de dédouaner tout cela.
Je dis pas le contraire, hein, je suis d'accord. Mais pour moi, il y a deux choses très distinctes. Je pense qu'il faut bien faire le distinguo entre les deux, parce que sinon, alors je dirais pas c'est les petits nègres, hein, parce que j'ai pas compris ce que voulait dire le président de la République avec cette citation du roman d'Agatha Christie, mais si on fait pas le distinguo, on part dans des choses totalement incontrôlées et incontrôlables. Je suis pas sûr que ça nous fasse du bien à l'arrivée.
Et c'est, vous parlez depuis un journal qui a publié des révélations sur François de Rugy, hein, d'autres, hein, notamment celle sur certains dîners avec des lobbies, mais là au ministère de la Transition écologique. Nos deux autres informés ont envie de parler, j'en suis sûr, je leur donne la parole. Le temps de dérouler les grands titres de cette soirée à 20h10 et c'est avec vous Léo Téchère.
La barrière du passage à niveau d'Avenay Val-d'Or aurait été enfoncée selon le procureur de Reims. Une assistante maternelle et trois enfants sont morts ce matin dans une voiture percutée par un TER. Un expert se rend sur les lieux ce soir. Les commerçants des Champs-Élysées vont porter plainte contre l'État après les dégradations d'hier. Ils dénoncent une non-assistance à commerce en danger. Des vitrines vandalisées, des vélos, des scooters et des poubelles incendiées. Ils accusent un dispositif de maintien de l'ordre insuffisant pour encadrer l'après-défilé du 14 juillet et les célébrations de la qualification de l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une réunion d'urgence sur les débarquements de migrants ce soir entre différents dirigeants de l'Union européenne. Ils vont tenter de mettre un terme aux bras de fer qui surviennent désormais après chaque sauvetage en Méditerranée. Une chercheuse franco-iranienne arrêtée en Iran, la France s'inquiète de ne plus avoir de nouvelles de Fariba Adelha. Elle demande des explications et un accès consulaire préalable nécessaire à sa libération rapide. Une colonne d'eau impressionnante au-dessus du port de Bastia, c'est une trombe marine qui reliait ciel et mer. La Corse en vigilance orange aux orages avec d'importants dégâts dans la région de Bastia. Le maire d'Ajaccio lui recommande de ne pas sortir ce soir, en particulier en pleine nature. Et puis après la 4G, voici la 5G pour vos téléphones portables. La France lance officiellement la procédure d'attribution des fréquences. Premier déploiement commercial prévu pour fin 2020.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Frédéric Carbone.
Et on continue de disséquer cette première déclaration d'Emmanuel Macron dans l'affaire François de Rugy, en même temps que soulignait Stéphane Vernet il y a un instant, c'est-à-dire en même temps, il demande la clarté, mais ne pas aller vers la République de la délation, en précisant que demain, François de Rugy fera son test Assemblée nationale, entre guillemets, puisqu'il sera interrogé lors des questions au gouvernement. Sarah Durieux, dans le débat qu'il y avait avec nos autres informés, la morale ou tout le droit, vous êtes de quel côté? Tout le droit ou la morale aussi?
Je pense que la question est très bien posée. Il y a le droit, il y a la morale. Et la morale aussi, du point de vue de l'éthique politique, elle a un petit peu évolué ces derniers mois avec un mouvement social qui a fait qu'on a mis au cœur des sujets l'équité, l'égalité, la question de la précarité et la question des avantages qui peuvent être donnés à certains représentants politiques. Donc j'ai envie de dire, en effet, légalement, il n'y a probablement rien qui est complètement...
En tout cas, l'enquête est en cours.
L'enquête est en cours, mais moralement, c'est problématique. Et puis surtout, par rapport à ce qui a été dit, on parle de délation. Enfin, c'est un journal quand même, je pense, qui a fait ses preuves en termes d'enquête et de recherche. Ce n'est pas juste une photo postée par une personne sur Twitter. C'est une enquête qui a été faite par Mediapart, avec des vérifications, notamment avec certains des invités, avec l'épouse de M. de Rugy aussi.
Donc, qui corrobore certaines parties, notamment sur les amis invités.
Oui, donc je pense que le mot de délation, je trouve ça un peu dangereux dans la bouche du président de la République, parce qu'en fait, on remet sans cesse en cause le travail des médias. Et il faut savoir que mettre en cause constamment le travail des médias, ça pousse aussi à une forme de populisme qu'on a vu émerger ces derniers temps. Donc on ne peut pas en même temps, je vais réutiliser l'expression, dire aux personnes qu'il y a une forme de populisme qui existe, on ne respecte plus les corps intermédiaires, etc., etc. Et puis constamment parler de délation quand il s'agit d'une enquête poussée par un journaliste et un journal qui a pignon sur rue.
C'est ce que vous retenez aussi, Antoine Colonna, sans revenir au François Mitterrand et les hommes jetés aux chiens du temps de Pierre Bérégovoy. Il y a cette même tonalité dans la délation employée par Emmanuel
Absolument.
Macron aujourd'hui.
On ne peut pas balayer tout ça d'un revers de main et dire aux journalistes, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas besoin d'écrire des articles, il n'y a pas besoin de faire des enquêtes. Voilà, sinon on peut fermer. Et puis il y a aussi cette... sinon aussi on peut fermer la télé, on peut fermer France 2, par exemple, qui fait des très belles images du 14 juillet. On voit de Rugy juste sur un plan serré avec
qui cherche le regard d'Emmanuel Macron.
Voilà, exactement.
Mais bon, parenthèse refermée.
Mais c'est très intéressant. Donc il faut savoir se positionner quand on est un président de la République par rapport aux médias. Est-ce qu'on travaille normalement avec les médias ou est-ce qu'on est un prince et on n'a pas le droit d'être critiqué?
Mais normal aussi, ce que disait Stéphane Vernet tout à l'heure, de prendre du temps.
Absolument. Oui, il est parfaitement dans sa fonction et de dire la justice doit apporter des éléments. Et effectivement, la presse n'est pas la justice.
Alors, on change de sujet si vous voulez bien, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses. Ça veut dire, Roger, qu'il avait d'autres choses à dire, mais on a beaucoup, beaucoup de sujets à examiner ce soir. On commençait par le maintien de l'ordre, parce que il y a eu le 14 juillet, vous en parliez, tout se passait bien du côté de la tribune officielle, un peu moins autour. 14 juillet, mélange de gilets jaunes et de supporters de l'équipe d'Algérie un peu plus tard dans la soirée, plus de 280 interpellations. Et ce coup de gueule sur France Info ce matin de Frédéric Pechenard, vice-président de la région Île-de-France, Les Républicains, hein, et ancien directeur de la police nationale.
Le 14 juillet, c'est un temps fort de notre République, c'est la fête nationale, et finalement hier on rendait hommage à nos forces armées, à nos forces de sécurité, aux pompiers, aux gendarmes, aux policiers. Donc c'est un moment un petit peu entre parenthèses, sur un lieu un petit peu sacré, où les Français rendent hommage à leur armée, à leurs forces de sécurité, et je trouve que profiter de ce temps qui devrait être un temps de partage et de solidarité pour venir essayer de foutre le bordel sur les Champs-Élysées, moi ça me plaît pas. Les gilets jaunes, en tout cas un certain nombre d'entre eux, au cours de ces derniers mois, ont mis Paris à feu et à sac, et ça, c'est insupportable. Alors que des gens viennent manifester, c'est tout à fait normal, on est effectivement dans une démocratie. Mais la démocratie, c'est pas le bordel. La démocratie, c'est quand vous faites une manifestation, vous la faites. En aucun cas, ça vous donne le droit de devenir un émeutier et de casser.
Voilà, la démocratie, c'est pas le bordel. Frédéric Pechenard, ce matin sur France Info, vous vouliez la parole, vous l'avez. Ça fait rire, Roger. La faute à qui dans cette affaire-là? On voit bien ici ou là, Christophe Castaner pointé du doigt, il a pas prévu ce qui allait se passer, il aurait dû anticiper.
Bah, c'est ce qu'on en tout cas, c'est la petite musique assez habituelle maintenant qu'on a entendu toute la journée, hein, le laxisme de Christophe Castaner.
Vous en prenez quoi de cette
musique? Non, mais c'est le jeu classique de l'opposition d'appeler même à la démission du ministre quand il y a de tels débordements. Pour parler des faits, visiblement hier, oui, les forces de l'ordre n'étaient pas assez préparées ou mal préparées. Pour autant, est-ce que la responsabilité personnelle du ministre est mise en cause? Ça, j'en suis pas sûre. Peut dire sur la doctrine du maintien de l'ordre, ce qui est vrai, c'est qu'elle a changé depuis décembre dernier, depuis les terribles saccages qui sont arrivés sur les Champs-Élysées, et que ce qui a changé, ce qui est mis en place depuis 6 mois, a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent, hein, forcé de le constater. Il n'y a pas eu de nouveaux saccages, comme on a connu certains samedis des décembre. Et d'ailleurs,
s'il en est de la
responsabilité personnelle de Christophe Castaner, moi j'ai pas entendu ni l'Élysée ni Matignon aujourd'hui faire une quelconque réaction ou mettre en cause le ministre de l'Intérieur. Voilà, donc je pense pas que ce soit un sujet que Christophe Castaner soit un sujet pour l'exécutif aujourd'hui. En revanche, ce que je trouve absolument, mais vraiment absolument honteux, facile et détestable, c'est la réaction pour le coup des responsables du Rassemblement National. On a entendu Sébastien Chenu tout à l'heure, qui est le porte-parole du Rassemblement National, qui disait « leurs victoires sont nos cauchemars ».
Il parlait de la soirée, l'équipe d'Agir.
C'est la même, c'est ce qui s'est passé hier soir à Paris, sur les Champs-Élysées. Il pointe un rejet de ce qu'est la France. Et là, à mon sens, on n'est plus, pourtant on est habitué avec eux, mais on n'est plus dans la posture caricatural politique. Pour moi, c'est vraiment du racisme, c'est du racisme ordinaire. C'est ce que disait d'ailleurs Rachid Temal, qui est un sénateur socialiste, qui s'est exprimé tout à l'heure là-dessus, en disant c'est du racisme ordinaire, point final.
Sarah Durieux, la facilité de l'instrumentalisation dans ce genre d'histoire.
Oui, c'est assez effrayant, je suis d'accord avec vous. C'est la porte ouverte à toutes les formes de racisme. Moi, je voulais juste revenir sur la déclaration sur ce 14 juillet, qui est un moment où l'on célèbre les forces militaires. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille, je tiens à le rappeler quand même.
Où est le peuple, c'est ça que vous allez
dire. C'est le moment où en fait la population française a décidé de reprendre ses droits et de mettre fin à des privilèges. Et il y a quelque chose que je trouve assez intéressant dans le commentaire politique de certains élus ou responsables, c'est comment ils font abstraction de l'histoire quand cette partie de l'histoire les intéresse moins. Je trouve ça assez intéressant que ce 14 juillet, il y avait deux images, il y avait deux France côte à côte, il y avait ce qui se passait sur les pavés au milieu de l'avenue des Champs-Élysées, cette présentation militaire bien orchestrée, le président de la République dans la voiture saluant la foule qui le huait.
Quelques dizaines ou centaines de personnes,
je pense qu'en termes de beaucoup de journalistes en ont parlé, ça n'a pas été le cas sur d'autres défilés qu'on a vus. Donc il se passe quelque chose, il y a eu une vraie déconnexion mais qui était flagrante pendant ce défilé. Et sur le maintien de l'ordre, il faut savoir que les responsables, puisqu'ils sont appelés comme ça, du mouvement des Gilets jaunes, qui étaient présents et qui n'avaient absolument rien organisé, qui étaient là à regarder le défilé, ont été tout de suite arrêtés par la police alors qu'il n'y avait pas encore eu de débordement. Donc sur la question du maintien de l'ordre, oui, il y a une question qui se pose, c'est que ce maintien de l'ordre aujourd'hui, il crée de la tension et donc il ne fonctionne pas. Les violences policières ont été documentées par de nombreux journalistes. Le Conseil de l'Europe a lui-même mis en garde la France sur l'usage des LBD, des flashballs. Donc oui, il y a un problème sur le maintien de l'ordre. Après, est-ce que c'est parce que M. Castaner ne fait pas bien son travail ou parce qu'il y a une mauvaise utilisation par les forces de l'ordre des outils, je ne sais pas, mais il y a en tout cas un vrai problème aujourd'hui, c'est
alors,
sûr.
Beaucoup de questions que vous posez sur le maintien de l'ordre. Où était le peuple aussi? Accessoirement, quelles mesures prendre pour assurer la tranquillité? On reprend la conversation après l'info, 20h20, et c'est Léo Técher.
Les premiers mots d'Emmanuel Macron dans l'affaire de Rugy, le président met en garde contre ce qu'il appelle la République de la délation. Il y a encore dans notre pays, dit-il, le droit de se défendre. Il a demandé au Premier ministre d'apporter toute la clarté, notamment sur les dîners 5 étoiles de François de Rugy lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Un expert en passage à niveau se rend sur les lieux de l'accident qui a fait 4 morts ce matin dans la Marne. Une assistante maternelle et 3 enfants percutés dans leur voiture par un TER. Un automobiliste raconte avoir vu une barrière défaillante hier. 2 importants incendies ce soir dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Plus de 300 hectares de pinèdes partis en fumée dans le massif des Corbières. Et 2700 campeurs évacués à Argelès. Aux États-Unis, une sénatrice républicaine appelle Donald Trump à retirer des propos racistes sur des élus démocrates. Encore aujourd'hui, le président accuse 4 parlementaires d'origine étrangère d'aimer les ennemis de l'Amérique. Si vous n'êtes pas heureuse ici, vous pouvez partir, leur dit-il encore. L'association de victimes de l'amiante, Andeva, va faire appel du non-lieu dans le dossier Eternit. Les juges d'instruction considèrent qu'il est impossible de dater l'intoxication des plaignants. Impossible également donc de déterminer qui était alors dirigeant de l'entreprise. Et puis c'est un Belge qui remporte l'étape du jour sur le Tour de France. Wout van Aert au sprint à Albi, Thibaut Pinot piégé par un coup de bordure. Julien Alaphilippe lui consolide son maillot jaune.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Frédéric Carbone.
Et nous sommes toujours sur cette gueule de bois politique d'après 14 juillet, avec ces échauffourées nocturnes, ces perturbations dans la journée pendant le défilé. C'est intéressant la question que vous posiez, Sarah Durieux, et là je la pose à Stéphane Vernet, en l'occurrence de Ouest-France, sur où est le peuple pendant ce 14 juillet. C'est vrai que c'était assez frappant d'une certaine manière. Même s'il n'y a que quelques centaines de personnes qui criaient, qui huaient Macron, on a quelque chose qui est de l'ordre d'un défilé très traditionnel. Et puis de l'autre côté, une actualité en France depuis 6-8 mois, ce jour-là, elle n'existe pas, ou il faut la mettre sous le tapis.
Je serais tenté de revenir aux déclarations de Frédéric Pechnard, ce qu'on a entendu en début de séquence, qui, à mon avis, a plutôt raison. Mais c'est ce que disait Christophe Castaner, alors assez maladroitement, je pense, hier, parce que les Gilets jaunes n'ont pas cherché à empêcher le défilé. Mais Le 14 juillet, c'est d'abord un moment de concorde nationale. C'est un moment aussi où on célèbre les armées. Les voilà, je pense qu'il y a une dimension symbolique et un peu sacrée qui est assez forte. Donc le fait de contester l'action du président de la République, elle est libre, elle est tout à fait légitime. On est dans une démocratie, contrairement à ce que certains affirment de manière très ostentatoire et en étant totalement à côté de la plaque. On est dans une vraie démocratie. Vous pouvez critiquer le président de la République, vous pouvez huer le président de la République. Ce que je trouve dommage, c'est que je pense qu'il faudrait faire le distinguo entre le président qui est l'homme politique, que vous pouvez contester sur le plan politique, et puis ce qu'il incarne dans des moments comme le défilé du 14 juillet, à partir du moment...
Quelque chose qui est au-dessus de Emmanuel Macron lui-même.
Exactement. C'est-à-dire quand Emmanuel Macron préside le défilé du 14 juillet, il ne s'appartient plus. On parle plus du politicien, l'homme politique.
C'est le corps du roi.
Exactement. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est la France.
Néanmoins, le peuple a le droit de s'exprimer.
Mais je dis pas le contraire. Je trouve que là, il y avait un vrai décalage qui, à mon avis, est regrettable.
Antoine Colonna, question sur ce qui s'est passé au moment du défilé et avant qu'il n'y ait les incidents, les interpellations préventives de trois des personnes qui sont des leaders des Gilets jaunes, on va dire, depuis plusieurs mois, et aux deux extrêmes de l'échiquier politique aujourd'hui, Rassemblement National et France Insoumise, on dit c'est comme si c'était des arrestations d'opposants politiques.
Ce qui prouve que la police, quand elle veut, peut faire son travail, elle sait très bien faire.
Donc vous dites que c'était normal de faire ça?
Non, j'ai pas dit que c'est normal.
Quel est le cadre légal?
Je dis que c'est la preuve que si la police veut intervenir, si le ministère donne des ordres, on peut très bien faire, on sait très bien faire. Donc ça pose la question de savoir pourquoi l'après-midi, le travail n'est pas fait, pourquoi les commerçants sont à nouveau victimes des dégradations, parce qu'ils ont rien à voir avec l'histoire, si j'ose dire. Donc c'est un vrai problème. Après, le 14 juillet, c'est évidemment, Stéphane a très bien dit, le moment de concorde nationale, c'est la fête des armées, etc. Mais c'est aussi, effectivement, un événement parfaitement révolutionnaire, au sens violent. Le 14 juillet, c'est la prise d'un espèce de grand commissariat de l'époque qui s'appelait la Bastille, où on a tué sept malheureux gardes, décapité le gouverneur et libéré sept types qui étaient un petit peu dans l'esprit de Rugy, puisque... Je vais très loin, mais c'est juste pour rire, c'est une parenthèse.
Le fil est tendu, on va se vautrer tous dedans joyeusement.
C'était des gens...
C'était des gens
qui étaient en prison parce qu'ils faisaient des agapes. Ah. Exactement. C'était des gens qui avaient des dettes de jeu et que leur famille envoyait là-bas parce qu'ils étaient insupportables. Donc, en fait, le 14 juillet, si on veut vraiment aller dans le symbole, c'est ça.
Alors, laissez-moi retomber sur terre, mais j'aime beaucoup votre image et votre fil tendu.
Je voulais dire quelque chose sur le cadre légal.
Oui, voilà, parce que c'était là-dessus où je voulais ramener. Le cadre légal des interpellations préventives.
Le cadre légal, ça nous reporte sur la fameuse loi anti-casseurs qui a été votée cet hiver, qui venait du chef de file de la droite sénatoriale, des Républicains, Bruno Retailleau, qui a ensuite été votée, récupérée par la majorité En Marche. Récupérée, d'ailleurs, ça a créé des remous dans la majorité. Certains trouvaient beaucoup au sein de la majorité En Marche, on trouvait ce texte liberticide, que ça allait trop loin, que c'était donc attentatoire aux libertés. Finalement, ça a été voté. Et effectivement, ça permet, entre guillemets, des arrestations préventives, ou en tout cas de certaines interpellations qui ont auparavant été signalées. Voilà.
Mais ça, c'est la conclusion de cette loi-là, ce qui s'est passé avec ces interpellations.
Dans le détail, le cadre des interpellations d'hier, je ne les connais pas. Voilà. Mais ça relève effectivement du même projet de loi.
Ce qui s'est passé également, c'est que si j'ai bien lu, hein, je suis pas sûre d'être bien informée pour le coup. Je crois qu'il y a aussi la question de l'organisation d'une manifestation non autorisée. C'est-à-dire que est-ce que les leaders d'un mouvement reconnu étant présents sur un lieu avec d'autres personnes de ce mouvement, mais n'ayant pas appelé à se rassembler, peuvent être considérés comme ayant organisé une manifestation interdite, puisque les rassemblements des Gilets jaunes étaient interdits sur les Champs-Élysées hier. Donc c'est là qu'ils jouent aussi bien le jeu, les Gilets jaunes. Ils savent s'organiser pour passer entre les mailles du filet, mais ça reste la question des libertés publiques, et je pense que n'importe qui doit pouvoir être présent, notamment le 14 juillet, sur les Champs-Élysées pour voir ce défilé et éventuellement protester.
Pour préciser, ils ont bien été arrêtés, Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole, pour organisation d'une manifestation illicite. Sint, c'est le chef d'interpellation.
Éric Drouet avait été interpellé avant. Stéphane Vernet, il n'y a pas le risque de fabrication, je vais employer un mot qui est sans doute exagéré, mais de martyr avec ce genre de choses, d'entretenir la flamme avec ce genre... Le mot est évidemment exagéré.
On remet 100 balles dans la machine, pour parler crûment. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, il s'est affaibli, mais il n'a jamais disparu. Parce que de toute façon, tout partie des revendications de ce qui fait le socle de ce mouvement n'a pas été réglé. Donc rien n'a été réglé. Le grand débat n'a rien réglé. Enfin, c'est un petit peu comme si on avait mis la poussière sous le tapis. Et donc, vous avez un mouvement qui a baissé d'intensité, mais qui n'a pas disparu. Et l'incident auquel on a insisté dimanche, parce que c'est juste un incident.
Bien sûr. Mais il est significatif.
Il est significatif de quoi? J'ai surtout envie de vous dire qu'il permet de réattirer la lumière des projecteurs et les caméras sur un mouvement qui existe, qui n'a pas disparu, qui n'a pas disparu, mais qui avait été écarté ou oublié. Là, hop, on a un gros coup de projo. Et donc, quelque part, si vous voulez, dans la bataille de la com, les Gilets jaunes ont marqué des points dimanche. Mais c'est ce qu'ils cherchaient à faire, je pense.
Un point Gilets jaunes, Antoine Colonna, et pas hasard, si, selon ce que vous disiez tout à l'heure, ce jour-là.
Entièrement d'accord avec Stéphane, parce que c'est un problème. On se demande même s'il n'y a pas une stratégie politique à un moment donné, se dire, finalement, on a un adversaire qui est bien pratique, qui est à peu près malléable, on sait où le placer, on sait comment s'en servir, on sait comment le stigmatiser, et en plus ça permet de bloquer complètement la question sociale en France.
Bon, peut-être pas de complotisme dans le poche là, mais vous posez la question.
Stratégie elle politique, est... c'est pas un complot,
elle,
enfin voyons.
Elle est sur le tapis, vous ne bougez pas, vous reprenez votre souffle en reprenant la conversation. Dans quelques minutes, il y aura l'info et puis la météo tout de suite.
France Info Météo, avec le CIC. Banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Encore une belle journée, Sébastien Léas.
Les averses et les orages restent d'actualité en Corse ce soir, avec toujours des pluies intenses, des risques de grêle et une forte activité électrique. L'accalmie se dessine en début de nuit et le temps va progressivement redevenir calme et sec. Demain, la journée sera généralement bien ensoleillée sur le pays, malgré la présence d'un voile nuageux. Ce voile de nuages élevés, par moments assez épais, touchera la moitié ouest du pays demain matin, avant de se décaler sur les régions de l'Est demain après-midi. Quelques grisailles matinales seront aussi possibles vers le Pays Basque, les côtes nord de la Bretagne et sur le Nord-Pas-de-Calais, mais ces nuages bas et brouillard se dissiperont avant la mi-journée pour laisser place à un ciel plus dégagé. Les températures de demain seront partout en légère hausse, variant entre 24 et 31 degrés en général, avec des pointes jusqu'à 34 degrés autour de la Méditerranée, mais 20 à 24 degrés près des plages de la Manche.
Sébastien Léas, Météo France. Excellente soirée à tous. Les informés sont restés. On les retrouve après l'info, 20h30.
France Info.
Deux points. Ouvrez l'info.
L'essentiel de l'info ce soir, Lauriane Delanoë.
Un expert à Avenay-Val-d'Or dans la Marne ce soir pour examiner les barrières du passage à niveau. Un train y a percuté une voiture ce matin, 4 morts. La conductrice de la voiture, sa fille de 11 ans et 2 enfants de 1 et 3 ans. Cette assistante maternelle gardait les deux petits. La barrière du péage enfoncée d'après le procureur de Reims. 2500 vacanciers évacués de 3 campings aujourd'hui à Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. En cause un feu de broussailles attisé par des vents violents, 40 à 60 hectares brûlés. L'incendie est maintenant circonscrit. Dans l'Aude, près de 300 pompiers mobilisés ce soir. Un feu de forêt et végétation à Fabrezan et Ferral. C'est dans l'Hérault, enfin. Un feu brûle en ce moment une zone boisée à Galargues. 90 mm d'eau tombée en une demi-heure. Des pluies diluviennes dans le secteur de Bastia cet après-midi. 1000 foyers privés d'électricité en Haute-Corse ce soir. Les deux départements de Corse en vigilance orange pour forte pluie et orages violents. Donald Trump s'en prend à nouveau à 4 femmes élues démocrates issues de minorités. Depuis la Maison-Blanche, le président américain les accuse d'aimer les ennemis de l'Amérique et leur dit de quitter les États-Unis si elles n'y sont pas heureuses. Ce soir, un sénateur noir, républicain, le camp de Donald Trump, dénonce des propos à connotation raciste et inacceptable. Le Belge Wout van Aert remporte la 10e étape du Tour de France au sprint à Albi. Étape terrible pour Thibaut Pinot, le Français quitte le podium, Fabrice Rigobert.
Parti troisième du classement général avec un matelas de 19 secondes d'avance sur le vainqueur du tour sortant, Geraint Thomas. C'est avec une 11e place à 1 minute 21 du Gallois que le coureur de la Groupama FDJ se retrouve après une fin d'étape particulièrement mouvementée. Le maillot jaune Julien Alaphilippe avec ses coéquipiers et la formation britannique Ineos sont à l'origine des ennuis de Thibaut Pinot. Ce sont eux qui ont accéléré et provoqué les cassures dans le peloton en jouant avec le vent à 38 km de l'arrivée. Dans un premier temps, Thibaut Pinot piégé avec le Danois Fulsang, l'Italien Ciccone, l'Australien Porte. L'Italien Nibali a réussi à revenir à 13 secondes du peloton maillot jaune avant de céder 1 minute 40 sur la ligne. De quoi rebattre les cartes en vue du podium à Paris. Le Français va devoir passer à l'attaque dans les Pyrénées. Le Gallois Geraint Thomas et son coéquipier Egan Bernal sont maintenant installés sur les 2e et 3e places du podium. Derrière le maillot jaune, Julien Alaphilippe. Albi, Fabrice Rigobert, France Info.
Et demain, les coureurs pourront se reposer. Premier jour de repos de ce Tour de France. L'Espagne et la France, co-organisatrices de l'Euro féminin de basket dans 2 ans, en 2021. La Fédération internationale a rendu aujourd'hui sa décision. Les matchs de poule et les quarts de finale se joueront à Lyon et à Valence, la Valence espagnole. Le dernier carré et la finale, ce sera à Paris. 20h33, la suite des informés avec vous, Frédéric Carbone.
Absolument, merci Lauriane Delanoë.
20h, 21h, les informés.
Frédéric Carbone.
Et le mercato politique pour ouvrir cette deuxième partie des informés, toujours avec les fidèles de l'émission, Antoine Colonna de Valeurs Actuelles, Saveria Rojec de Public Sénat, Sarah Durieux de Change.org France et Stéphane Vernet de Ouest France. Et le transfert le plus inédit, il est de chez les Républicains à chez Cyril Hanouna. Laurence Saillé, porte-parole LR, abandonne cette fonction pour devenir chroniqueuse à la rentrée prochaine dans l'émission Balance ton poste sur C8 et elle explique pourquoi.
Je quitte les Républicains en très bons termes, il n'y a pas de lien de cause à effet. Je reprends ma liberté de parole. Parfois, il y a des sujets que j'ai un peu évités ou il y a des sujets que j'ai traités avec plus de distance, notamment sur la fin de vie ou des choses comme ça. Je me donne pas une mission particulière, mais je trouve ça quand même intéressant qu'on puisse mettre de la politique sous différents formats. Et les audiences, c'est vrai, de Cyril Hanouna dans son émission politique ont été quand même très importantes, ce qui montre qu'il y a une demande aussi chez les jeunes de débat, et on doit leur donner la possibilité d'entendre ces débats.
Voilà, Laurence, ça y est, tout à l'heure sur France Info, Saveria Rojec, vous avez fait votre travail, les dessous de l'émission, je les donne aux auditeurs,
absolument.
Et après tout, pourquoi pas, vous avez appelé Laurence, ça y est, elle vous dit la même chose qu'elle a dit sur France Info?
Absolument, je lui ai parlé il y a une heure ou deux, elle me dit plus ou moins la même chose, elle m'a tout de même parlé de la grande déception du départ de Laurent Wauquiez,
ouais.
Donc elle y était
parce que c'était Laurent Wauquiez qui l'avait
parlé de ça. Elle m'a dit aussi qu'elle portait cette idée depuis longtemps, d'intervenir sous une forme différente dans le débat public. Elle dit qu'elle est déjà allée à cette émission, qu'elle a tout de suite bien aimé Cyril Hanouna, que l'émission attire beaucoup de jeunes, que Balance ton poste est une émission très intéressante avec des débats très respectueux, ce sont ses termes.
Elle va pas en dire du mal,
l'engage elle-même.
C'est la même des choses.
Voilà, après elle me dit aussi que la politique c'est vraiment fini, que jamais elle y retournera, que c'est un vrai départ, que c'est un choix personnel.
Ça on le note.
Et que ça n'a rien à voir avec l'état du parti, qu'elle pense d'ailleurs que le parti Les Républicains, c'est plutôt bien parti pour les municipales. Voilà. Donc ça, elle me dit, c'est du ressenti, c'est très personnel, c'est une page qui se tourne. Maintenant, ce que j'en pense, moi, j'ai tout de même du mal à regarder cette décision autrement et avant tout sous l'aune, effectivement, de l'état du parti, de l'état des Républicains aujourd'hui, avec les résultats catastrophiques des Européennes, 8,5%. Et puis un dernier petit mot, ce qu'elle fait là, c'est pas non plus nouveau. Il faut, rappelons-nous simplement de Roselyne Bachelot,
oui, Bachelot
mise à la santé, qui vit et continue une carrière.
À la télévision voilà. Et Sophia Chikirou de la France Insoumise qui sera sur une autre chaîne de télé à la rentrée pour
pique-bande
de cette chaîne avant.
Absolument, après avoir dénigré grandement les médias.
Stéphane Vernet, c'est ça la lecture politique qu'il faut avoir quand on est chez les Républicains aujourd'hui, pour retrouver le peuple, il faut aller chez Cyril Hanouna?
Ah non, alors moi, j'ai écouté avec attention ce que disait Saveria, je pense que c'est d'abord une aventure personnelle, en tout cas moi je le comprends comme ça, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle part en bon terme, mais qu'elle tourne la page de la politique, enfin je comprends, donc je pense que c'est pas du tout un calcul de communication ou de politique, je pense que c'est vraiment un choix personnel et qui moi m'étonne assez peu, parce que quand vous êtes porte-parole des Républicains ou d'un grand parti, vous êtes régulièrement invité sur les plateaux de télévision, vous voyez comment ça se passe en coulisses, etc. Ça peut donner envie, ça peut susciter des vocations, je pense qu'elle est simplement attirée par les feux de la rampe.
Oui, mais ça dit aussi quelque chose de l'état du parti, de l'état de la droite républicaine actuellement.
Qui n'offre pas d'avenir à Laurent Saillie, probablement. Il y a quelque chose dans ce qu'elle dit, Laurent Saillie, Antoine Colonna, qui est intéressant, c'est « je retrouve une liberté de parole ». C'est quand même une façon de dire, quand on est porte-parole d'un parti politique, là, on dit absolument rien. Enfin, ça aide pas la cause politique, entre guillemets.
Oui, on peut le dire comme ça, effectivement. En tout cas, elle a le mérite de la clarté, c'est-à-dire qu'elle ne mélange pas les genres. Elle dit, il y a un moment, on fait de la politique, donc il y a une ligne du parti, il y a quand même quelque chose, il y a une parole commune à porter dans un parti politique, donc ça, c'est clair. Et là, maintenant, elle dit, je reprends ma liberté, j'ai mes idées, j'ai ma parole, et je continue. En fait, elle continue à faire de la politique, parce que elle va porter ce qu'elle a en elle-même, évidemment, comme chacun de nous, on a quelque chose, elle va le porter dans les médias d'une autre manière.
Donc et c'est une autre façon de faire de la politique,
c'est ça. Écoutez, c'est vrai que vous disiez, c'est le mercato, mais c'est la Bérézina, en fait, aux Républicains. Donc il y en a qui vont chez Marion, il y en a qui vont chez Macron, et elle va chez Hanouna. Bon, c'est très bien. Chacun son parti politique.
Chacun son parti. Je donne la parole en dernier à Sarah Durieux, parce que là aussi, je donne les arrière-cuisines. Sarah Durieux, il y a 5 minutes, disait, mais pourquoi on parle de ça? J'espère que les autres informés vous ont convaincu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre d'un effet gilet jaune là-dedans? C'est-à-dire de se dire, on voit qu'on a perdu aussi la capacité de parler à une certaine partie de la France. Traduction, celle qui regarde Cyril Hanouna. Marlène Schiappa avait fait, tout en restant au gouvernement, évidemment, la même analyse il y a quelques mois. Voilà, on va essayer de parler à cette France-là.
Oui, il y a probablement de ça. Ce que je trouve, je reviens un peu sur le même argument que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, ces corps intermédiaires, ces partis politiques jouent un rôle important en France, et là, en fait, ça se délite complètement. Donc, je trouve ça un peu dangereux, même si je ne suis pas sûre que voilà la contribution qu'elle ait eue dans le parti était significative. Je connais pas suffisamment son historique.
Elle était une voix des Républicains.
Elle était une voix
quasi quotidienne. J'irais
politiquement, stratégiquement.
Combien de divisions? Pas beaucoup, peut-être.
Ouais. Après, moi, ce qui me choque plus, c'est qu'elle dit que c'est une émission respectueuse, parce qu'en fait, c'est quand même l'émission qui a été épinglée à maintes reprises sur des questions de sexisme, d'homophobie et même de violence, enfin de violence des personnes qui défendent les droits des animaux, comment des animaux sont amenés sur le plateau et maltraités. Donc en fait, c'est juste l'émission qui est en tout cas la plus critiquée justement pour des questions de non-respect de droits fondamentaux quels qu'ils soient. Donc je trouve ça un peu intéressant. Après, ce que je garde quand même, c'est qu'aujourd'hui, on veut tous aller chez Hanouna pour parler aux jeunes, mais peut-être qu'il faudrait laisser parler les jeunes à la place. Donc quand elle dit les jeunes veulent débattre, il faut donner la possibilité aux jeunes de débattre, peut-être qu'elle peut laisser sa place à d'autres jeunes qui ont envie d'aller débattre chez Hanouna.
Vous voyez que vous aviez des choses à dire. En 30 secondes et sans jouer les combats d'arrière-garde de Stéphane Vernet, à une époque, ils avaient envie d'aller à l'heure de vérité, les politiques, et pas Chanel.
Ben oui,
c'est pas grave, c'est pas grave, docteur.
Ça, c'était avant. Voilà. Les temps ont changé.
Le monde avant. Et l'ancien monde.
Et c'est pas grave du tout. Vous restez évidemment, tous les quatre, on poursuit la conversation dans une minute. On va s'intéresser à quelque chose de passionnant qui est à la une du monde aujourd'hui sur les accidents de travail. Pas de statistiques en France, ou quasiment pas. Il y a pourtant 10 personnes qui meurent sur le lieu de travail chaque semaine. On voit tout ça après l'info, le temps de dérouler les grands titres à 20h40. Et c'est avec vous, Léo Téchère.
L'assistante maternelle et les 3 enfants qu'elle transportait en voiture sont morts sur le coup, percutés par un TER sur un passage à niveau. La barrière était enfoncée. Selon le procureur de Reims, un expert se rend sur les lieux ce soir. Les premiers mots d'Emmanuel Macron dans l'affaire de Rugy, le président met en garde contre ce qu'il appelle la république de la délation. Il y a encore dans notre pays, dit-il, le droit de se défendre. Il a demandé au Premier ministre d'apporter toute la clarté sur cette affaire. Plus de 2500 vacanciers évacués de 3 campings ce soir à Argelès. Ils dorment dans des gymnases. Un incendie n'a toujours pas été stabilisé après l'intervention de Canadair. Encore, ce sont les orages qui font des dégâts. Vigilance orange et ciel noir, des orages, des avions déroutés, des toitures touchées. Mais pas de blessés ni de victimes. À Bastia, le maire d'Ajaccio lui demande à ne pas sortir ce soir, surtout en pleine nature. Un deuxième sénateur américain s'indigne des propos à connotation raciste de Donald Trump. Un élu noir républicain qui dénonce des propos inacceptables. Le président américain invite 4 femmes parlementaires d'origine étrangère à retourner d'où elles viennent. Et puis Thibaut Pinot est le grand perdant du jour sur le Tour de France. Le coureur de la FDJ piégé par le vent de côté et un coup de bordure. Il perd plus d'une minute 30 au classement général. Julien Alaphilippe est toujours en jaune et c'est Wout van Aert, le Belge, qui a remporté l'étape au sprint à Albi.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Frédéric Carbone.
Et je voudrais soumettre à présent à nos débatteurs ce qui figure à la une du Monde en gros caractère. Le Monde a sorti cet après-midi à Paris, demain en province ou dans les territoires, pour être à la mode comme on dit maintenant. On dit plus la province, on dit les territoires. Accident du travail, donc 10 morts chaque semaine en France, dans l'indifférence générale. Et effectivement, il n'y a aucune statistique précise, fiable, dans notre pays sur cette réalité. Je trouve ce choix de nos confrères utile, bienvenu. J'imagine, Sarah Durieux, que vous avez aussi beaucoup appris en lisant cette enquête.
J'ai trouvé ça très intéressant. Déjà, je me suis rendu compte, comme la plupart des Français, j'imagine que je n'avais aucune connaissance et notion de ce qui se tramait dans les questions des accidents du travail. Et surtout, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le témoignage de cette personne qui recense tous les accidents du travail.
Le lanceur d'alerte,
donc, qui s'appelle Mathieu Lépine. C'est un prof d'histoire géo qui, tous les jours, va sur Internet et cherche les articles de presse qui recensent ces accidents et qui les met sur sa page Facebook et sur son Twitter, où il finalement adresse les signalements à la ministre du Travail et qui reprend un peu le système qu'avait mis en place David Dufresne sur la question des violences policières. Alors moi, bien sûr, j'aime bien voir ce que font les gens sur le web et comment ils l'utilisent de manière intelligente. Donc on parle beaucoup des fake news, à quel point le web permet de diffuser des informations fausses et erronées, etc. Et quand on voit ça, en fait, on se rend compte à quel point le web peut être un moyen pour les personnes d'être des lanceurs d'alerte extrêmement efficaces. Et on le voit aussi pas mal, les pétitions qu'on peut avoir nous sur la plateforme, de gens qui signalent des situations, par exemple sur le burn-out, ou je ne sais pas quel est le terme français qu'on utilise pour ne pas faire un anglicisme.
La fatigue généralisée, quelque chose de cet ordre-là peut-être.
En tout cas, c'est un phénomène qui existe aujourd'hui en France, avec des personnes qui justement parfois vont être poussées jusqu'au suicide, et ça c'est quelque chose qui a été documenté beaucoup dans le cadre de pétitions en ligne que nous on a vu sur la plateforme. Et donc je me dis que c'est génial de voir comment des personnes peuvent trouver le moyen d'utiliser le témoignage là où la statistique fait défaut, parce que c'est bien ce que dit l'article du Monde, c'est qu'il n'y a pas de statistique en fait.
Oui, c'est vrai.
Pour préciser ce que dit Mathieu Lépine, ce professeur d'histoire géo dans un collège à Montreuil, déjà il récuse le terme de lanceur d'alerte parce qu'il ne veut pas justement être mis dans une chapelle. Enfin voilà, il dit qu'il fait ça pour des raisons personnelles, pour des raisons éthiques, mais il ne se dit pas lanceur d'alerte. Et effectivement, encore une fois, il faut rappeler les chiffres parce que c'est un phénomène qui complètement d'une grande opacité dont on ne parle jamais.
Il faut rappeler les chiffres, qui sont parcellaires.
Mais il a déjà, lui seul, recensé 140 morts depuis janvier. 140 morts, au total 350 accidents graves ou mortels. Il faut bien sûr préciser qu'il a interpellé à plusieurs reprises Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, à plusieurs reprises, sans succès.
Alors, il y a un chiffre qui existe, qui est officiel, en tout cas qui est trouvable facilement, c'est 530 morts par an selon l'assurance maladie, mais recensement qui ne prend que les salariés du privé, donc pas la fonction publique, pas non plus les nouveaux métiers de la nouvelle économie.
Les armées.
Voilà, les armées non plus. Antoine Colonna, est-ce que ça serait de salubrité publique qu'il y ait quelque chose d'officiel sur les accidents du travail en France?
Oui, sans aucun doute, et peut-être pour deux raisons. En tout cas, il y aurait un double effet. C'est-à-dire que si on avait des statistiques officielles, on aurait aussi la capacité d'avoir une évolution du phénomène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive avec des chiffres, on est à des zéros, en fait, si je comprends bien. Et encore, on les a pas tous compilés, on a juste ce début d'éléments. À partir du moment où on a une évolution dans le temps, on peut savoir si les normes sont plus efficaces ou moins efficaces. Parce que malheureusement, les accidents du travail, par définition, c'est un accident. Vous avez un accident, on ne peut pas le prévoir.
Donc, bien sûr, et le risque zéro n'existe pas.
Voilà, ça n'existe pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la chose. Et ça nous appellera aussi à être attentifs au phénomène d'ubérisation du monde du travail.
Qui ne fait pas partie, justement, ces métiers-là ne font pas partie des statistiques.
Exactement, et c'est là le double effet de l'intérêt de la chose, c'est que là, on pourra enfin mettre plus de garde-fous à cette espèce d'ubérisation de la société dans tous les métiers qui deviennent pour gagner un peu plus, pour faire... En fait, ça devient n'importe quoi partout.
Aller au plus vite, oui, effectivement. Il y a une spécialiste, Stéphane Vernet, citée dans l'article, qui dit c'est un non-sujet de santé publique. Alors, c'est pas pour dire à tout prix, parce qu'on le découvre, qu'on en parle, ça doit en être un, mais c'est quand même extrêmement étonnant.
Mais non,
Mais
c'est curieux, parce que non, c'est effectivement un non-sujet de santé publique. Et si je vous le dis comme ça, je vais choquer. Mais en réalité, il y a des chiffres. Il y a des statistiques. Vous avez parlé de 530. 530, c'est pas 530 morts par an, c'est 530 morts recensées par l'assurance maladie en 2017. Et ce sont des morts sur le lieu de travail. Et effectivement, il n'y a pas de statistiques généralisées, organisées. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de santé publique. C'est-à-dire que quel est le lien En termes de santé purement, quel est le lien entre la personne qui décède en se rendant en voiture sur son lieu de travail, le livreur Uber qui se fait écraser, le couvreur qui tombe d'un toit, l'ouvrier qui a le bras happé par
le
une
lien,
machine.
Le lien, c'est que c'est dans le cadre de l'exercice de son travail.
Oui, et ou l'agriculteur ou le policier qui se suicide. Il y a sur certains de ces accidents, ce sont des accidents simples, j'ai envie de dire, enfin, ce sont vraiment des accidents de la vie, et d'autres qui peuvent être directement liés aux conditions sanitaires, de travail, etc. Cette partie-là, sur tout ce qui est de l'ordre de la santé, effectivement, il faudrait avoir une recherche assez fine pour pouvoir étudier ça pour pouvoir agir en termes de connaissances, pour pouvoir faire de la prévention.
Donc c'est trop vague pour vous.
Très intéressant dans ce papier, et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, qu'il n'y ait pas de statistiques généralisées, il n'y en a jamais eu, et ça, ce n'est pas une surprise. Par contre, qu'il n'y ait aucun recensement, aucune recherche ou aucun travail qui soit fait dans la fonction publique, ça m'étonne. Ça m'étonne. Et l'autre aspect que je trouve très intéressant, ce serait de regarder, notamment d'essayer de mesurer les accidents liés au livreur Uber, à l'ubérisation. Alors là, je suis complètement d'accord, parce que derrière, je pense qu'il y a un vrai problème.
Donc on voit quand même, Saverio Roget, que ça dit quelque chose aussi du monde de travail, avec les bémols que vous mettez, Stéphane Vernet, évidemment.
Pour vous répondre, Stéphane, pourquoi ce n'est pas un sujet aujourd'hui de santé publique? Parce qu'en fait, chaque cas, et vous avez raison quand vous décrivez le spectre effectivement de ce qui peut arriver, mais parce que chaque cas est traité comme un drame individuel. Or, il y a quand même une partie, si ce n'est une grande partie de ces cas, qui sont liés aux conditions de travail. Ces accidents graves ou mortels qui sont liés aux conditions de travail. Donc, effectivement, ne pas les traiter n'est pas une solution.
Il y a aussi, pardon,
la question des suicides, juste pour préciser la question des suicides, c'est aussi dans l'article, la grande majorité des familles se retrouvent à devoir aller plaider leur cause devant un tribunal pour faire reconnaître l'accident de travail, en accident de travail.
Juste pour préciser ma pensée, parce que j'ai bien conscience que ce que je peux dire, ce que je dis peut être de nature à choquer certains, mais moi, plutôt que mettre des moyens, de l'argent dans des études statistiques, je pense qu'il y a un autre sujet, je pense qu'il serait plus important de remettre de l'argent dans l'inspection du travail, donner des moyens à l'inspection du travail pour aller dans les entreprises où on peut se dire qu'il y a des problèmes manifestes, pour mettre un petit coup de pression, pour améliorer les conditions générales de sécurité. À mon avis, le vrai problème et la vraie urgence, elle est plutôt là, parce que l'inspection du travail n'a plus d'argent, ou pas assez, pour faire ce travail-là depuis plusieurs années.
Peut-être que plus on sait le nombre d'accidents du travail, plus il sera populaire de donner plus d'argent aux inspecteurs du travail. Sarah Durand.
Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, dans la mesure où on a supprimé quand même le CHSCT, donc qui était quand même un organe
pas tout le temps, de la même manière.
En grande majorité.
Ça a été
Et du coup, ça quand même limite la capacité à informer sur les risques au travail. Et puis, la dernière chose aussi, par rapport aux statistiques que vous donnez, on a aussi beaucoup de travaux qui sont liés, par exemple, à l'agriculture. Donc, si on avait des statistiques, puisqu'on est dans les grands débats autour de la question des pesticides et du glyphosate, ça pourrait être aussi un moyen de voir est-ce que les ouvriers agricoles meurent plus et plus souvent lorsqu'ils utilisent certains produits, etc. Donc, il y a, pour moi, une vraie question en effet de santé publique et qu'il faut la traiter, ouais.
En tout cas, ce que vous nous dites tous, c'est qu'il faut être mieux informé sur ces questions-là. C'est absolument le but. On poursuit la conversation, le débat après l'info, les grands titres, 20h50, Léo Técher.
Emmanuel Macron attend des clarifications du président iranien sur l'arrestation d'une franco-iranienne en Iran. Fariba Adelha est une anthropologue. Emmanuel Macron s'entretiendra cette semaine par téléphone avec Hassan Rouhani. Également à propos de la crise sur le programme nucléaire iranien, Donald Trump et Vladimir Poutine participeront eux aussi à cette discussion. Le ministère de l'Intérieur ne donnera pas le nombre de voitures brûlées pendant ce week-end du 14 juillet, contrairement aux deux dernières années. Christophe Castaner dit ne pas vouloir provoquer une compétition par rapport à vendredi prochain, jour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le parquet de Paris veut un procès pour le suspect du meurtre de la sexagénaire juive Sarah Halimi. Il fait appel de l'ordonnance des juges d'instruction. Selon eux, Kobili Traoré pourrait avoir été pris d'une bouffée délirante et donc être déclaré irresponsable pénalement. La faim dans le monde touche désormais 821 millions de personnes, surtout des Africains, des Sud-Américains et des Asiatiques. Les Nations Unies déplorent cette nouvelle progression alors que l'objectif d'un monde sans personnes sous-alimentées s'éloigne pour 2030. Antoine Griezmann s'est entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers du FC Barcelone, l'attaquant des Bleus transféré pour 120 millions d'euros, montant contesté par l'Atlético Madrid. Et puis des rumeurs l'envoyaient lui aussi au Barça. Mais Neymar est bien de retour aujourd'hui au Paris Saint-Germain dans un contexte tendu puisque le joueur brésilien déclarait il y a quelques jours que son meilleur souvenir de joueur était la remontada barcelonaise contre le PSG.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Frédéric Carbone.
Et on ouvre le dernier chapitre de cette émission, pour ce soir en tout cas. Et comme c'est l'été, que vous avez peut-être un peu plus de temps, peut-être plus de curiosité, on ne sait jamais, que vous demandez quoi lire, quoi aller voir, quoi visiter comme exposition. Après, le temps du débat, je vous propose le temps du partage. La règle, elle est simple pour nos invités. Vous conseillez ce que vous voulez, à condition que ça soit d'une manière ou d'une autre disponible à nos auditeurs, donc pas un film qui est plus en salle depuis 3 ans, ou un livre introuvable, sauf dans le dernier grenier à droite à gauche. Bref, Antoine Colonna, je vous laisse commencer.
Ah. Alors,
vous venez avec quoi ?
Je viens avec un livre qu'on peut trouver sur Internet pour quelques euros.
Bon, ça va, c'est facile avec les livres.
Ce sont les mémoires du comte de Ségur qui a accompagné Napoléon
en
1812.
Il n'y a pas que la comtesse dans la famille.
Non, c'était son oncle, je crois, je ne suis pas certain. Mais alors, c'est pourquoi il faut lire ce livre maintenant ? Parce qu'on a retrouvé la semaine dernière à Smolensk, à 300 km de Moscou, le corps du général Gudin. Le général Gudin était l'un des grands généraux de Napoléon, le premier mort comme ça en 1812 pendant la campagne de Russie. Ouais. Napoléon, dit-on, a pleuré. Napoléon n'avait pas l'arme facile. Davout également, qui était l'un des grands maréchaux d'Empire, a pleuré. Et les trois étaient copains à l'école de Brienne quand ils étaient gamins, à l'école militaire de Brienne. Donc c'était vraiment...
C'est un livre pour le 14 juillet que vous nous proposez.
Exactement.
Pas pour le 15,
exactement.
Le 16, là, c'est donc, passé le 14.
C'est un conseil de Corse.
On a découvert enfin le corps qui avait été perdu depuis des dizaines d'années, évidemment. Et alors, c'est une fantastique histoire qu'on peut lire dans Valeurs Actuelles cette semaine, d'ailleurs.
Ah,
aussi.
D'accord. Ah, bah oui.
Par exemple.
Bien sûr.
Mais il y aura la suite.
Page combien?
Il y aura la suite, je sais plus.
D'accord. Alors, vous redites, alors, le livre.
Alors, c'est les mémoires du comte de Ségur.
Mémoires du comte de Ségur. Voilà, quel éditeur?
Trouvez-le sur Internet pour quelques euros et c'est vraiment très bien.
Saverio Rojec. Qu'est-ce que vous avez à nous conseiller ?
Alors, plusieurs petites choses, je vais être assez rapide. Un roman, tout d'abord, le livre de Clémentine Autain sur sa mère.
Roman,
voilà, le livre qu'elle a écrit, la lettre qu'elle a écrite à sa mère direct. Qui s'appelle « Dites-lui que je l'aime ». C'est formidable, c'est très bien écrit, c'est très touchant. C'est sur sa mère, donc l'actrice Dominique Lafin, qui est morte quand elle était toute jeune fille, elle avait 12 ans, quand sa maman a disparu. Ça évoque l'amour d'une mère qui n'a jamais été dit, une mère en souffrance, une mère égarée, et puis en même temps, une mère solaire. C'est une grande lettre d'amour, voilà, je le conseille. Très rapidement, en film, il y a deux films qui m'ont beaucoup touchée cette année. C'est Pupille, le film de Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlin, Gégine Lelouch et Élodie Bouchet sur l'adoption, sur le désir d'enfant. Voilà, pareil, c'est très touchant, c'est très juste, c'est très vrai. Un autre grand film dans un tout autre genre, c'est Vice, le film, la biographie de Dick Cheney.
Voilà. Aux États-Unis,
mais c'est, alors là, c'est tout ce que font les Américains. Ils savent très bien le faire. C'est le très bon cinéma américain sur le. Effectivement, voilà, ça raconte le vice-président américain Dick Cheney quand il est vice-président de George Bush. Après le 11 septembre, ça raconte les États-Unis qui rentrent en guerre contre l'Afghanistan et l'Irak. C'est formidable. Christian Bale est formidable dans le rôle. Et pour terminer très très rapidement, une série.
Vous reviendrez. Non, mais vous allez revenir dans une minute. Laissez Stéphane Vernet nous dire quelque chose. Il est aussi venu avec quelque chose. Bon, il n'a pas un cabas plein comme
je,
vous.
Je vais faire court, c'est gratuit d'actualité. C'est de la radio. En fait, moi, je suis un grand fan de podcasts.
Mais voilà,
j'adore les feuilletons de France Culture et ils profitent de l'été pour rediffuser des feuilletons, d'anciens feuilletons tout l'été. Et cet été, c'est le mystérieux docteur Cornelius, c'est l'adaptation d'un roman de Gustave Leroux qui date de 1912. Ça a été fait en 1978. C'est un feuilleton qui date radiophonique qui date de 1978. Et c'est excellent. Mais si vous allez farfouiller dans ce podcast, vous trouverez plein d'autres feuilletons et c'est toujours de très grande qualité. Ça s'écoute partout, y compris à la plage. C'est gratuit, c'est super. Je vous le recommande vivement.
Vous avez raison d'insister sur les podcasts France Culture. Il n'y a pas que celui-là, il y en a des formidables. Je vous en signale un de France Info en ce moment sur le Tour de France fait par l'ami Jérôme Cadet sur le maillot jaune parce que c'est le centenaire du maillot jaune, sinon le centenaire du Tour de France.
Pas du gilet jaune.
Il est, non, du maillot jaune. Il est pas mal aussi. Sarah Durieux. dans votre besace.
Moi, mon thème, c'est les femmes, le féminisme et l'empouvoirment, puisque j'ai appris que
on pouvait le traduire.
Moi, j'ai lu un livre il y a peu de temps qui est pas nouveau, qui s'appelle Sorcière, d'une journaliste du Monde diplomatique qui s'appelle Mona Chollet, et qui est absolument génial, que je conseille à lire à toutes les femmes, qu'elles soient jeunes, moyennement jeunes, ou un peu moins jeunes, ou vieilles. Et donc, en fait, c'est vraiment un livre qui nous apprend à nous accepter en tant que jeunes femmes, à prendre le pouvoir sur notre vie, à faire ce qu'on a envie de faire, en tant que femme qui n'a pas d'enfant peut-être, à accepter qu'on est en dehors des clous et que peut-être les clous sont pas les bons, et en tant que femme plus vieille, à aussi valoriser notre maturité, nos cheveux blancs qui arrivent, etc., etc. C'est un magnifique livre. C'est aussi un livre historique qui raconte qu'est-ce que c'était une sorcière, pourquoi on a fait la chasse aux sorcières et comment ces relents de chasse aux sorcières sont encore présents dans nos temps modernes.
Pourquoi aux femmes, vous dites ?
Aux femmes, pourquoi vous avez raison, peut-être aux hommes. Je pense qu'il est principalement adressé aux femmes, ce livre.
Ce que vous me dites me donne aussi envie.
Vous pouvez le lire. Je pense que c'est un livre très intéressant. Et j'ai une deuxième recommandation et après j'arrête.
Non, allez-y.
C'est sur Netflix, du coup, j'espère que je rentre à peu près dans les clous de l'accessibilité. Mais toujours sur la question des femmes et de prendre confiance en sa capacité d'agir, il y a un documentaire qui s'appelle Knock Down the House. Je suis désolée pour l'anglicisme, qui raconte l'ascension de jeunes sénatrices américaines qui sont entrées au Sénat.
Celle qu'insulte Donald Trump, ces jours-ci, on en parlait dans l'info tout à l'heure. Ocasio-Cortez notamment.
Ocasio-Cortez et d'autres. Comment elles ont construit des campagnes localement pour se présenter aux élections et pour entrer au Sénat. Donc, puisqu'on arrive bientôt au municipal, j'espère que ça incitera beaucoup de femmes à se présenter peut-être localement.
Je rassure nos auditeurs, il y a une version française de ce document. Il y a évidemment la version anglaise, américaine avec la traduction, mais il est aussi traduit en français parce qu'effectivement, c'est Knock Down the House en anglais. J'ai plus le français, je suis désolé. Mais ça existe aussi, je le sais. Allez, vous avez un dernier mot, ça va rien.
C'est une série sur Arte qui a été diffusée récemment, que j'ai trouvé formidable, qui s'appelle Jeu d'influence. J'encourage tout le monde à la regarder, à tous ceux qui s'intéressent à la politique, aux coulisses de la politique, au poids des lobbies au Parlement. Voilà, c'est très bien fait, c'est très réaliste, c'est intelligent, c'est subtil également. Voilà, Jeu d'influence sur Arte.
La besace, elle est pleine aujourd'hui. J'espère que vous avez noté. Peut-être qu'on le mettra sur le site de France Info, toutes vos recommandations. Merci de la variété. En tout cas, merci à tous les quatre d'être passés sur France Info. Vous avez la une, Stéphane Vernet de Ouest-France demain.
Nous, on fait notre une et on fait un sujet sur un des quatre hommes qui est encore vivant, qui a marché sur la Lune. Il n'en reste que quatre.
On arrive au cinquantenaire.
On est d'accord avec nos
confrères. Vous avez la même chose. Vous êtes sur la Lune.
On va sur la Lune aussi pour le cinquantenaire et de Louis Armstrong à Artemis.
Entre nous,
la prochaine.
La une sur la Lune, assez banale. Mais c'est bien. Par exemple. Merci beaucoup en tout cas, Antoine Colonna. Merci Saveria Rojek, journaliste à Public Sénat. Et merci à vous, Sarah Durieux, directrice exécutive de Change.org.